Voilà, nous allons donc commencer notre soirée. Bonsoir à vous. Merci de vous être déplacés, de venir au Centre Sèvres. En particulier, j'accueille ceux qui ne sont pas familiers de ces lieux. Centre Sèvres, donc faculté jésuite de Paris, organise beaucoup d'enseignements en philosophie, théologie, sciences humaines, aussi d'autres activités de conférences en particulier. Donc bienvenue dans cette soirée organisée conjointement par la revue Études et le magazine Réforme. Donc je suis François Auvert, rédacteur en chef de la revue Études, et Frédéric Assatsu de la revue Réforme. Nous allons co-animer cette soirée que je vous présente brièvement. L'année 2017, cette année que nous traversons, est marquée par un ensemble d'événements dont deux ne paraissent pas immédiatement connectés. Le 500e anniversaire du début de la réforme protestante, si on date symboliquement le début de cette réforme par l'affichage par Luther de ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg de 31 octobre 1517, donc 500e anniversaire du début de la réforme protestante, et les élections présidentielles et législatives en France. Quand nous avions programmé notre numéro de janvier de la revue Études sur le thème de la réforme, nous avions bien sûr dans l'esprit d'honorer cet anniversaire de la réforme protestante. Nous ne savions pas à l'avance, même si nous pouvions peut-être pressentir quelques affaires, que les élections présidentielles en France allaient laisser entendre une possible réforme, nous verrons tout à l'heure à quel degré de profondeur, de la vie politique française. Enfin, en tout cas, nous ne pouvions pas vraiment pressentir tout ce qui allait se passer. Donc nous avions quand même désiré faire ce rapprochement entre événements religieux et événements politiques en proposant deux soirées liées à notre numéro de janvier. Donc numéro que nous avions élaboré conjointement avec le soutien de nos amis de la revue Réforme. Donc nous avions souhaité développer la réflexion amorcée par ce numéro sous deux aspects, sous deux angles. Un aspect plus religieux, plus intra-chrétien, lors d'une soirée qui a eu lieu au Temple de l'Étoile, où nous avions invité le frère Enzo Bianchi, le fondateur de la communauté italienne de Bozé, et le pasteur Laurent Schlumberger, président de l'Église protestante unie de France. Donc cette soirée avait abordé plutôt la question de la réforme de l'Église ou de la réforme dans l'Église. Et nous avions souhaité aussi organiser une deuxième soirée plus tardivement, après les élections présidentielles et avant les législatives, qui réserveront peut-être encore des surprises, autour du thème de la réforme politique. Y a-t-il en France un véritable désir de réforme? Qu'est-ce qui doit être réformé? En fonction de quels critères? Voilà des questions très vaste, qui constitue l'arrière-plan de notre soirée. Et donc, pour aborder ce thème et ces questions, nous avons choisi deux invités, Stéphane Rosès à ma droite, je vais dire du côté catholique, bon, c'est une manière peut-être un petit peu rapide de l'annexer, mais bon, voilà, merci d'assumer, et Nicolas Rousselier, que je laisserai le soin à Frédéric Assatsu de présenter. Nous commencerons par deux interventions relativement brèves, commençant par Nicolas Rousselier et ensuite Stéphane Rosès, d'environ une quinzaine de minutes. Ensuite, nous poserons peut-être quelques questions aux intervenants et puis nous laisserons le temps des questions à la salle, en terminant donc comme annoncé à 21h30. Je vous promets que j'ai la parole pour présenter brièvement Stéphane Rosès, et puis ensuite Frédéric présentera Nicolas Rousselier. Donc, Stéphane Rosès, je pense qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent, politologue, et était directeur général de l'Institut CSA avant de présider une entreprise de conseil, Conseil Analyse et Perspective, CAP, donc entreprise de conseil à destination du monde de l'entreprise et du monde politique. Institut qu'il a du reste fondé. Et Stéphane Rosès a eu l'occasion d'être le conseiller en particulier d'un certain nombre de personnalités politiques. Et Stéphane Rosès enseigne aussi à Sciences Po et à HEC. Frédéric.
Merci, merci François. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Alors, il y a le côté de vos églises, il y a le côté de la nôtre. Donc, du côté protestant, Nicolas Rousselier, nous sommes évidemment très heureux de votre invitation. Merci beaucoup à tous. En quelques mots, vraiment très brièvement, vous savez, être journaliste est un métier de cocagne. Être journaliste à réforme, encore davantage. Parce qu'on a le plaisir de traiter de sujets qui sont chaque fois les mêmes et chaque fois différents. Et cette différence, nous la devons aux experts que nous sollicitons. Journaliste politique à réforme, il m'arrive de téléphoner à tel ou tel de ceux que l'on appelle les politologues. Et si j'essaie de varier les plaisirs, c'est évidemment pour varier les points de vue. Et je suis particulièrement heureux que Nicolas Rousselier ait accepté notre invitation, car il est historien, historien de la politique. Il a publié, voici quelques mois, un livre à la fois remarquable et remarqué, qui s'appelle « La force de gouverner », qui est un livre paru chez Gallimard, et que je vous recommande plus que chaudement. Et Nicolas Rousselier fait partie de ces personnalités rares, qui trouvent toujours un petit truc à vous raconter, que les autres n'ont même pas eu l'idée d'imaginer. Alors voilà, c'est tout. Je me tais et je lui laisse la parole.
Bon, la pression est sur moi.
Nico, il faut appuyer sur le...
Oui, je disais la pression est maintenant sur mes épaules. Je voudrais bien sûr commencer par remercier François Levé pour cette invitation et que j'ai acceptée tout de suite sans hésiter. Et je remercie Frédéric Casadesus aussi. Non seulement de ce qu'il a fait pour moi avec l'hebdomadaire Réforme et puis cette invitation. Alors, écoutez, je pense qu'il faut attaquer le sujet maintenant. Il est temps. Alors, je voudrais peut-être introduire d'abord un élément, je dirais, pour casser la glace entre les deux églises et s'amuser un petit peu au début. On a passé pas mal de mois... un peu lourd politiquement, donc on peut aussi un peu sans faire de provocation, mais disons s'amuser un peu. La France est-elle réformable ? Je voudrais dire que cette question, pour moi, elle est très catholique. Parce que il y a un équivalent qui, je crois, fait couler beaucoup d'encre ou fait beaucoup de cogitation. L'Église est-elle réformable ? Je ne crois pas qu'il y aurait la même question de l'autre côté, du côté protestant. La France est-elle réformable ? Ça suppose effectivement l'existence d'une institution, qu'il y ait une institution qui puisse prendre en charge les réformes, qu'elle applique à la société. Donc, il y a l'auteur des réformes, autorité des réformes, et puis en face, en surplombant la société qui doit être réformée, en étant guidé par cette institution. Alors en même temps, je pense que ça explique une double crainte. On peut avoir la crainte, de ce point de vue catholique, j'essaye d'imaginer ce que peut être un point de vue catholique, on peut avoir la crainte que la France n'est pas réformable, que les réformes tentées finiront par échouer, mais il y a aussi peut-être une autre crainte, un autre doute, que les réformes, à force d'être menées ou tentées, peuvent aussi user l'institution et finalement remettre en cause l'autorité de l'institution. Et des réformes, y compris si elles sont réussies, on peut penser aux réformes à venir faites par le nouveau gouvernement, y compris si elles sont réussies, elles peuvent aussi remettre en cause l'autorité, alors un peu transcendante, disons, l'autorité de l'institution, c'est-à-dire l'autorité de l'État ou même du politique. En général, je pense ici par exemple aux réformes qui vont probablement être faites par ordonnance, sur le marché du travail, où on nous annonce, et c'est un mouvement historique déjà ancien, on nous annonce que la loi, ce qui est écrit dans la loi, sera remplacé par le contrat. Donc, ça, c'est la première chose. Alors, côté protestant, la version protestante de la question serait pratiquement opposée. Je crois que dans le protestantisme, on est sans cesse en train de se réformer, de se reformer. On questionne en permanence son institution. Je sais qu'il y a des paroisses où on questionne le pasteur lui-même. On peut aussi le pousser par la porte de sortie. On questionne en permanence sa foi. En tout cas, c'est ce que me disait mon pasteur quand j'étais jeune, adolescent. Donc c'est la réforme permanente, la réformation permanente. Et le lieu de la réformation se situe dans la société elle-même. Il n'y a pas de surplomb, si vous voulez. C'est la société qui est appelée elle-même à se réformer. Au fond, dans une version protestante, on fait confiance à la société pour trouver ses propres moyens, ses propres ressources pour mener à bien des réformes. Alors, par exemple, on peut citer ce que disait l'historien, alors c'est un historien de l'ancienne école libre de sciences politiques, Élie Halévy, qui est resté célèbre, plus d'ailleurs en Angleterre qu'en France, sous le nom « la thèse Halévy ». Et la thèse Halévy était de dire que l'Angleterre du XVIIIe et du XIXe siècle avait évité les révolutions, à la différence de la France, avait même évité en général les formes de violence politique en raison de son héritage protestant, parce qu'au fond, il y avait une sorte d'adaptation permanente de la tradition, notamment y compris par le parti conservateur, et que ça évitait les changements brutaux. Alors, maintenant je reviens un peu sur terre, et je voudrais faire le job, donc plus parler de la situation présente, et de répondre à la question « La France est-elle réformable ?» dans la situation actuelle. Donc je pose la question par rapport aux travaux que j'ai pu mener. Je pose la question suivante. Est-ce que le système dans lequel nous sommes, le système politique constitutionnel, donc la Ve République, est-elle le bon système pour penser, élaborer et appliquer les réformes ? C'est différentes étapes qui sont loin d'être toutes les mêmes. Alors, je commencerai par un rappel historique pour dire que la Ve République a précisément été créée pour débloquer les réformes, pour permettre des réformes qui débloquent les situations qui étaient elles-mêmes dans l'impasse. Bien sûr, la situation en Algérie, la question de l'Algérie, même si ça a pris 2-3 ans avant de se débloquer, mais aussi toutes les grandes réformes de modernisation qui ont marqué le premier gouvernement, 58-62, le gouvernement Debré, et puis par la suite Pompidou. On peut penser à une modernisation, et là ce sont des réformes à marche forcée, où l'État planificateur, l'État fort, mène la danse, mène les réformes. Donc on a réformé à marche forcée l'agriculture, il y a eu une réforme de l'hôpital public, réforme du système scolaire, bon ça vous me direz, il y en a tout le temps, la réforme du nouveau franc, etc. Au fond donc, la Ve République se définit comme étant un formidable appareil à produire des réformes à une époque où la France entre de plein pied dans la modernisation, on parle des Trente Glorieuses, le sociologue Henri Mandras parlait de la seconde révolution française, donc d'une certaine manière, la Ve République était ce qu'il y avait de mieux adapté à cette époque de réforme, de modernisation. Alors la caractéristique, c'est que ces réformes sont produites par l'exécutif, elles sont pensées dans l'exécutif au sens large, associé à la haute administration, et la réforme est considérée comme un impératif de tous les instants. C'est le sens que j'ai donné, si vous voulez, à mon livre « La force de gouverner ». La Ve République, c'est un véritable changement de paradigme. En ce sens que, pour le bien même des réformes qui sont menées par l'État, il faut une continuité du pouvoir, il faut une continuité, une stabilité du gouvernement. Il faut un rôle central du président. Il faut une autorité qui ne soit pas remise en question par exemple, un renversement du gouvernement. Là, le changement de paradigme est très net. C'est, au fond, la force de gouverner, la Ve République, c'est une manière de dire l'enjeu des réformes que l'on doit mener est trop sérieux pour se permettre, comme c'était le cas sous la 4e ou la 3e République, pour se permettre de faire chuter le gouvernement tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Le fait de renverser les gouvernements, comme c'était le cas dans l'ancienne République du Parlement, d'une certaine manière peut être considéré comme quelque chose qui était plus démocratique. Parce que, au fond, ce qu'on appelait une crise ministérielle était un moment d'ajustement entre le pouvoir et puis l'évolution de l'opinion, disons, même si l'opinion était traduite par les parlementaires. Mais c'était une manière, en fait, de bien signifier que c'était la volonté nationale exprimée dans l'Assemblée qui s'imposait au gouvernement. Le changement de paradigme, c'est que dorénavant, c'est le gouvernement qui a la priorité. Il ne doit pas être remis en cause, il ne doit pas, ou pratiquement jamais, être à la merci d'une chute. L'autre aspect de ce que sont les réformes dans notre démocratie présidentielle, c'est que ces réformes sont souvent présentées comme des nécessités. Des nécessités que peuvent imposer l'histoire, que peuvent imposer les circonstances, le contexte, ou par exemple des réformes qui sont imposées par l'obligation à la modernisation. De ce point de vue-là, le nouveau président de la République, Macron, est complètement dans cette conception de la réforme. Pour prendre un exemple, qui me paraît toujours assez nébuleux, mais c'est plus le message qu'il y a derrière qui est important, quand on nous parle de la révolution numérique. Bon, j'ai quand même une idée de ce que c'est, j'ai même un portable, et des choses comme ça, mais je crois que derrière cela, c'est un discours sur la nécessité que la société française doit avoir à s'adapter à cette révolution numérique. Au fond, cette révolution numérique, ce n'est pas nous qui en décidons, elle nous est imposée par le haut, et le pouvoir politique, donc, propose des réformes pour adapter le corps social à ses nécessités. Autrement dit, la Ve République n'est pas là pour faire advenir les volontés du peuple. Elle n'est pas là pour susciter, écouter et faire naître par le peuple, dans le peuple, ce que pourraient être les volontés du peuple. Le peuple ne s'est jamais prononcé volontairement pour qu'il y ait une révolution numérique, qu'on dématérialise un certain nombre d'emplois, que des emplois d'administration soient supprimés parce que maintenant on peut le faire par télétraitement ou télétravail, etc. Donc la Ve République a fondamentalement changé la nature et le sens de la réforme, et je crois que le président Macron se retrouve complètement dans cet esprit de la Ve République. Il s'y retrouve parce que il veut utiliser la Ve République pour faire des réformes, hein, on sait à peu près la sauce qui nous attend, mais il se garde bien de vouloir réformer la Ve République, sauf un ou deux gris-gris, par exemple le mode de scrutin. Bon, peut-être que Stéphane Rosès va me dire que c'est très important, mais enfin, vous avez vu le programme comme moi, c'est un programme de réforme, sauf la Ve République est sanctuarisée. On ne change pas l'instrument parce que c'est justement l'instrument qui est supposé garantir la capacité à faire des réformes, l'État capable de faire des réformes sur la société. Et puis la deuxième chose qui rapproche Macron de l'esprit d'origine de la Ve République, c'est que ces réformes donc sont présentées comme des nécessités. Des réformes donc verticales. Alors, à ce niveau-là de l'analyse, il y a un mot qu'on doit discuter ou qu'on doit sortir, à savoir, est-ce que ce sont des réformes autoritaires ? Est-ce que la Ve République, on l'a souvent dit bien sûr, est un régime pouvoir de la technocratie, de la technostructure, monarchie républicaine ? Vous connaissez comme moi tous les surnoms qu'on donne à la Ve République pour signifier effectivement cette manière de faire des réformes, la réforme par le haut. Cette caractéristique de la Ve République, c'est en fait ce qu'on pourrait appeler une sorte de malédiction qui a pesé pendant très longtemps sur les libéraux français. C'était déjà le cas sous la monarchie de Juillet, la Restauration puis la monarchie de Juillet. Je vous renvoie pour cela au livre extrêmement profond de Lucien Jaume sur les origines du libéralisme français et sa contradiction. Les libéraux français, si vous voulez, dans lesquels on peut mettre bien sûr le président Macron et puis son nouveau ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Bon, donc, ces libéraux envisagent la nécessité de réformes de libéralisation de l'économie, de la société, de libre-échange, d'un marché du travail plus libre, etc., plus d'autonomie, plus de liberté individuelle, mais en même temps, ils empruntent ou ils sont obligés d'emprunter une méthode qui, elle, est peu libérale, c'est-à-dire la méthode, justement, de la Ve République. De cette manière, l'instrument, le fait que le Parlement est quand même, sous la Ve République, en partie marginalisé, l'instrument dément le but, c'est-à-dire c'est des libéraux qui font des réformes libérales avec un instrument, au fond, depuis l'origine, qui est peu libéral. Alors simplement, je ne suis pas là pour attaquer la Ve République, il faut aussi dire, pour l'honnêteté du propos, que la Ve République a cette dimension autoritaire, mais en face de la dimension autoritaire, elle a trouvé une sorte de botte secrète, qui s'est beaucoup développée, et nous avons vu ça depuis le mois de septembre dernier. La botte secrète, c'est la réussite, on pourrait dire la réussite populaire, démocratique, de l'élection du président. Non seulement par la forte participation, surtout quand on la compare avec d'autres pays, comme les États-Unis, forte participation des Français. Là, dans la dernière élection, on n'a pas arrêté de nous dire que les Français voulaient rejeter la politique, on n'a pas arrêté de nous dire qu'ils allaient s'abstenir, etc. Et finalement, le taux de participation est pratiquement... a pratiquement atteint le chiffre magique qui existe depuis le début de la 5e, les 80%, à comparer à 55-60% au mieux pour les États-Unis. Donc, l'élection présidentielle a donné un sacre démocratique à cette autorité centrale du président, et en même temps, elle a aussi créé un appel, une sorte d'injonction à réformer, à travers le programme. Macron avait dit au départ... c'était très gaullien d'ailleurs, il a dit « je me présente comme un futur capitaine, mais je ne vais pas m'enfermer dans un programme ». Effectivement, De Gaulle détestait les programmes. De Gaulle était un stratège s'adapte aux circonstances, il ne s'enferme pas dans des promesses. Bon, finalement, Macron a quand même élaboré avec son équipe un programme, et on voit bien qu'ici, il est maintenant comptable auprès du peuple, il est comptable de ses annonces de réforme. Face à ces annonces de réforme, c'est vrai pour Macron, mais c'était vrai pour les présidents précédents, au fond, face à cela, tous les obstacles qui peuvent être opposés à cette marche forcée des réformes peuvent être considérés comme illégitimes par rapport à l'élection du président. On imagine mal, par exemple, un Parlement, comme ce serait le cas sous la 4e ou la 3e République, un Parlement qui ferait blocage. D'une certaine manière, un Parlement qui ferait blocage au programme du président, ce serait pratiquement attentatoire à la volonté du peuple. Alors que dans la Première République, la République du Parlement, 3e, 4e, la volonté du peuple, elle était dans l'Assemblée. Là où est l'Assemblée, là est la volonté du peuple. C'est là où il y a ce changement de paradigme. Alors, je termine. Qu'est-ce qui peut venir enrayer la belle mécanique ? S'il y a belle mécanique, on suppose qu'il y a une belle mécanique dans ces premiers pas du président. Il a réussi clairement son passage cérémoniel. Enfin, c'est mon avis. Cérémonie du Louvre est particulièrement frappante par les symboles. Et puis, donc, il y a clairement un vent favorable pour ce président, y compris la conjoncture économique qui est bien meilleure qu'en 2012, bon, etc. Alors, qu'est-ce qui pourrait venir enrayer la mécanique de la monarchie républicaine version Macron ? Alors là, je pense que, premier point, l'autoritarisme des méthodes prévu par la Constitution de la 5e, je m'en prête à dire, il n'est pas du tout illégitime d'utiliser ces instruments d'autorité. À un moment donné, ces instruments d'autorité peuvent paraître brutales. Donc là, il y a une limite. L'usage, évidemment, des ordonnances peut avoir sa limite. Il y a des limites juridiques, d'ailleurs, aussi. Et bien entendu, le 49.3 a aussi une limite certaine depuis quelque temps. Il peut y avoir, du côté parlementaire, quelques vestiges, quelques nostalgies de l'époque où les parlementaires n'étaient pas des godillots. Alors là, il faut attendre de voir si la nouvelle Assemblée, qui va être extrêmement renouvelée, il faudra voir si ceux qui viennent notamment de la société civile, est-ce qu'ils vont apparaître, est-ce qu'ils vont faire naître un nouvel esprit et ne pas accepter, si vous voulez, en gros, ne pas accepter de voter comme un seul homme, les réformes, les projets de loi apportés par l'exécutif. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'évidemment, ces méthodes d'autorité prévues dans la Ve République ont aussi une limite sociale. Donc là, si le dialogue social est jugé insuffisant par les partenaires sociaux, eh bien, s'il n'y a pas de cofabrication, de co-législation de la réforme partenaires sociaux exécutif d'une manière ou d'une autre, même si c'est l'exécutif qui aura toujours le rôle principal, là aussi, bien sûr, ça peut engendrer l'équation habituelle, manifestation, grève, mouvement social. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, et je crois que c'est aussi très important de le dire, la mécanique peut être enrayée sur la nature des réformes. Alors là, on touche à l'essence, pas simplement le mécanisme, la nature des réformes. En gros, si ces réformes sont présentées comme nécessaires pour s'adapter à la mondialisation, mais qu'elles ne sont pas associées à quelque chose de tangible du point de vue d'un progrès collectif, d'un progrès social, là, évidemment, il y a un risque de rejet, et un risque, si vous voulez, de rejet encore plus fort que le rejet qui avait été manifesté contre la loi El Khomri. Alors, si vous me permettez, je voudrais terminer ma conclusion par deux points. Alors, ce sont des sujets qui mériteraient d'être traités par d'autres exposés, mais je ne vais pas vous les infliger, évidemment. Mais je veux quand même les signaler, parce que je pense que ça fait partie de la problématique. Le premier point, la France est-elle réformable, est une question plutôt classique. Dans le contexte actuel, je dirais, je serais plus royaliste que le roi, et je dirais, même si elle est réformable, de toute façon, on ne peut pas se contenter de réformer la France. Et si vous voulez, la cible de la réforme, maintenant, doit être élargie de la France, de notre bac à sable national, à l'ensemble de l'Union européenne. Et que probablement, c'est à la fois plus urgent et encore plus difficile que de passer par une réforme de l'Union européenne. Là, c'est très vague, c'est très flou. On a bien sûr vu Macron aller voir Angela, mais il y a plein d'incertitudes et on est en plein brouillard pour cela. Donc, cette remarque, c'est pour dire, méfions-nous de l'archaïsme de l'élection présidentielle française. En ce sens qu'elle a été formatée dans un pays, début des années 60, pour construire un État-nation, la grandeur au sens de De Gaulle. Aujourd'hui, évidemment, les mécanismes de décision, un certain nombre de mesures ne sont plus prises à Paris. Elles sont prises par l'Union européenne. Alors, enfin, dernier point, deuxième point de ma conclusion, je crois qu'on peut aussi renverser la question, finalement. Alors là, ce serait plus des réflexions philosophiques, éthiques. On devrait aussi se poser la question, qu'est-ce qui ne doit pas être réformé ? Parce que finalement, nous sommes peut-être dans une époque d'injonction à la réforme permanente, donc là c'est la faute des protestants, tout le monde tout le temps doit s'adapter, tout le monde tout le temps doit se réformer, changer d'appareil portable tous les 3 mois ou tous les 6 mois, nous sommes dans l'époque de l'empowerment, donc chaque individu doit effectivement prouver sa capacité à accepter les réformes, mais dans quelles limites ? Quelles limites ? Pour certains, la limite du réformable, c'est par exemple le statut ou la nature du mariage. Mariage de personnes entre deux personnes de sexe différent. Pour d'autres, la limite, c'est l'homme biologique. Là, il y a une limite aussi, qu'on discute, bien sûr, en éthique. Voilà, donc là, c'était juste pour signaler ça, et ça ouvre, bien sûr, un horizon assez loin, assez important. Donc, la France est-elle réformable ? Ma réponse, elle propose des réformes. Le président Macron se situe dans « je développe des réformes, mais je garde les instruments, les fondamentaux de la Ve République, et j'espère que ces fondamentaux, avec leur dimension autoritaire, vont pouvoir être efficaces ». Donc on n'est en fait pas tellement dans du nouveau, à mon avis. On est dans plutôt une sorte de reprise ou renaissance de l'esprit de la Ve République. L'esprit de la Ve République, c'est aussi le titre d'un bon ouvrage paru récemment de Philippe Reynaud, L'esprit de la Ve République.
Voilà. Merci. Merci à Nicolas Rousselier pour cette entrée en matière. Alors, je me tourne maintenant vers Stéphane. Va-t-il confirmer, enrichir, infirmer ce diagnostic ?
Merci de... Et je remercie Nicolas Rousselier de la hauteur de son propos, en ce que derrière la réponse à la question, il y a au fond qu'est-ce qui agit un pays comme la France, qu'est-ce qu'une religion et que sont les institutions. Pour reprendre le propos amusant sur catholiques et protestants, je partirai d'un fait historique incontestable. En France, ce sont les catholiques qui nous ont emportés sur les protestants. Et je partirai sur un second fait incontestable. Hein ?
Pas dans l'esprit, mais dans le nom.
Absolument, et je vais essayer de faire la démonstration que vous êtes un protestant français. Dans les tensions même de votre argumentation entre transcendance et immanence. Je crois qu'au fond, quand on essaye de comprendre ce qui agit la France, la question fondamentale est effectivement celle qu'a posée Nicolas Rousselier, et on n'a pas l'occasion de débattre effectivement aussi profondément. Je crois que les institutions et les religions ne sont que des formes des sociétés, et ne sont pas des causes ni des origines. Je crois que ce qui agit les sociétés, c'est la façon dont, pour faire face au réel, l'individu et les collectifs humains, effectivement conscients des limites humaines, conscients de la mortalité, décident de se mettre ensemble pour affronter le réel. Et mon analyse est que ce sont les modalités d'assemblage des sociétés, évidemment différentes selon les pays, selon les périodes, qui construisent des représentations mentales, ce que j'appelle l'imaginaire, qui sont des modes d'appropriation du réel, qui construisent ensuite les religions, leurs évolutions et les institutions. Car au fond, religion, vous le savez, vient de reliere, et la religion n'est qu'une modalité d'assemblage des individus pour faire une société. Et les institutions sont également des modalités modernes, en tout cas dans des pays qui reconnaissent la séparation du spirituel et du temporel dans ce qui doit agir les affaires de la cité. Et donc, effectivement, la France, si le catholicisme l'a emporté sur le protestantisme, il s'en est fallu de peu, les élites, elles, allaient au protestantisme. Et c'est le peuple de Paris qui, avec le monarque, fait alliance contre le ralliement de l'élite au protestantisme. Si ensuite, dans le catholicisme même, les jésuites l'ont emporté sur les jansénistes, et j'ai comme point en commun avec le président Macron d'avoir été formé par les jésuites, et je remercie sans cesse les jésuites pour la dialectique propre à la France et l'écart entre l'idéal et le réel qui seul peut tenir ensemble la diversité française du fait des origines françaises. Tout cela construit depuis des siècles une façon permanente des Français de s'approprier le réel par projection et écart. Et c'était l'objet de ma conversation avec Emmanuel Macron quand il est arrivé à Bercy. On s'était connu il y a quelques années auparavant. Je lui ai demandé s'il était Ricoeur ou s'il était Bercy. Ricoeur était évidemment un protestant, mais au fond un protestant catholique, sans doute comme un protestant lapsus, un protestant français, et je partais de la notion de sublimation chez Freud, telle qu'interprétée par Ricoeur, comme une modalité de projection. Il me dit, mais pourquoi tu me dis ça? Je lui dis, parce que, et là on en arrive à la question de la réforme en France et à la victoire de Macron, je lui dis, mais parce que Bercy, c'est l'inverse de la projection. Bercy indexe sa légitimité au sommet de l'État en disant « Nous sommes, nous, comptables de l'engagement de la France à Bruxelles pour le respect des déficits. » Et je lui dis « Tout ça allait bien tant que les Français voyaient l'Europe comme la France en grand. Ce n'est plus le cas. Enfin, Bruxelles. Les Français continuent à espérer que l'Europe serait la France en grand, justement de façon projective, liée à notre imaginaire. » Et je lui dis, et donc il y a une contradiction entre l'énergie que doivent déployer les Français pour s'assembler, se projeter et accepter la réforme, et ce que fait l'État avec la nation, qui est exactement le processus inverse. Ça fait donc deux énergies qui se contrarie et qui fait la dépression française. Et je lui dis, au fond, tu es Ricoeur ou tu es Bercy? Il me dit, je suis Ricoeur. Et là, je lui dis, bon courage à Bercy. Eh bien, au moment où vous avez décidé de ce débat, la France est-elle réformable? J'imagine que, à juste titre, vous vous disiez, dans un pays en dépression, la question vaut d'être posée. Et en même temps, la France vient d'élire le plus jeune président de la République, qui n'existait pas il y a 3 ans, dont la formation politique a 13 mois, et qui semblerait dire encore aujourd'hui qu'il recompose la vie politique. Alors, c'est là où je vais arriver à mon étonnement. Toujours, car Frédéric est un ami de plusieurs années, à l'égard des protestants français. Car quand on est protestant, on croit un certain nombre de choses du point de vue de la foi, mais quand on est français, on est dans l'imaginaire français. Et donc, évidemment, là, ça veut dire une tension au fond entre ce que vous avez très bien expliqué au début, et c'est important de le dire, et je suis content qu'à Sciences Po, il y ait des enseignants comme vous, plutôt que des techniciens, c'est normalement le protestantisme, c'est non seulement un lien direct, mais l'idée que la réforme, elle procède du bas et qu'on n'aurait pas besoin de verticalité d'État. Ça, c'est le protestantisme. Mais toute votre argumentation sur les institutions, c'est l'inverse de votre protestantisme, c'est-à-dire que vous faites comme si les institutions imposaient de façon autoritaire quelque chose à la société, alors que selon moi, les institutions et Emmanuel Macron ne sont que l'expression d'un imaginaire à un moment donné qui est empêché ou pas, par effectivement ce qui est très juste dans votre propos, qui est de dire que les institutions de la Ve République ont servi à justifier et imposer des réformes, mais dans la dernière période. C'était mon échange avec Macron. C'est-à-dire que le propre de l'imaginaire français est que si vous dites à des Français que l'extérieur, la modernité, la survie du pays impose des réformes et que la France devrait choisir entre son identité, sa verticalité et un monde de la globalisation néolibérale des marchés qui est de l'ordre de l'horizontalité, eh bien les Français disent oui avec l'esprit et non avec les tripes, avec le corps. Car si la France a engendré Descartes, c'est justement pour bien articuler la spécificité de la France qui sont ses entrailles, ses tripes, parce que la France n'a pas d'origine, et que le protestantisme n'a pu se déployer que dans des pays qui, au départ, sont suffisamment sûrs de leur communauté préexistante pour inventer l'idée incroyable que l'individu pourrait nouer un rapport seul avec Dieu. Ça, ça dissout ce que l'on a à faire ensemble en France, pas en Allemagne, pas dans les pays nordiques, pas aux États-Unis, dans les nations, les peuples qui ont des imaginaires préconstitués comme communauté humaine. Et donc, le sujet de la réforme, évidemment, s'apprécie différemment, effectivement, selon les pays, mais je crois que ce qui pose problème aux Français avec la réforme, d'où leur conservatisme, les blocages, les corporatismes, ce n'est pas tant qu'il y ait des effets tangibles aux réformes, c'est en amont la façon dont les réformes sont justifiées ou pas. Si les réformes sont justifiées au nom d'une finalité, alors c'est acceptable. Si les réformes sont justifiées au nom d'adaptation à des circonstances, ça n'est pas acceptable. Le grand ami de la France, Helmut Schmidt, disait, décédé récemment, dans son dernier entretien en France, il disait « Quand je rencontre un Français, il me parle toujours de vision. » Il disait « Quand j'ai des problèmes de vision, je vais chez un ophtalmo. » Eh bien oui, les Français fonctionnent à la vision. Et ce qui fait l'élection d'Emmanuel Macron, c'est une seule chose. C'est le fait qu'il dit aux Français, contrairement à tous les autres, ce n'est pas vous les responsables de ce qui cloche en France. Vous, vous êtes talentueux. Vous avez en vous un fort potentiel. C'est son côté riqueur. Hein. Chaque individu a en lui un potentiel qu'il doit être capable de déployer. Donc vous, vous êtes fantastique. Mais il y a un truc qui bloque. Ce sont les institutions politiques. Et donc, il dit aux Français « En marche ». Oui, mais sa limite, c'est que, justement, comme nous sommes en France, il ne dit pas exactement où il amène le pays. Comme il est cultivé, comme il a une compréhension de l'âme et du génie français, il va utiliser des figures du passé, Péguy, Jaurès, il assume la fonction présidentielle dans sa verticalité, mais il est seulement dans l'incarnation, c'est énorme. Mais il n'articule pas l'incarnation de la verticalité avec l'horizontalité des marchés. Et il le théorise lui-même, il dit c'est vrai, j'ai tendance à dire et en même temps, et là il dit mais c'est parce que quand il y a des réseaux de contraintes, il faut prendre en compte toutes les contraintes. Bon. Et c'est là où, effectivement, la question derrière, vous avez tout à fait raison je trouve, c'est la question de l'Europe. Le hasard fait que je parlais devant des chercheurs allemands et européens à Berlin au moment où il y était. On a un tout petit peu échangé. J'avais regretté que lors du deuxième tour de l'élection, il n'envoie pas un message à nos partenaires européens. Et là, on en revient aussi à la question des religions, des institutions, des imaginaires. Il faut expliquer que l'Europe décline économiquement depuis 20 ans et régresse politiquement avec la montée des populismes, des nationalismes et du radicalisme religieux. De la même façon qu'il faut bien expliquer que, alors que les peuples sont de plus en plus interdépendants économiquement et reliés numériquement, ils se séparent. Les dépenses d'armement croissent. Trump, Poutine, Erdogan, partout en Europe, la montée des replis. Je crois que justement, si la promesse de Montesquieu voulant que le négoce entre les nations apaise les nations entre elles se révèle être fausse et le contraire, c'est justement parce que ce qui se passe en Europe comme laboratoire de ce qui dysfonctionne dans le monde, c'est que la gouvernance et les politiques européennes ne sont pas adaptées au génie européen. C'est-à-dire qu'une pensée économiciste allemande, plus l'imaginaire français transcendantal, l'idée que le haut ferait le bas, a construit l'illusion qu'en menant des politiques uniques monétaires et budgétaires, on allait rapprocher les peuples. Il se passe l'inverse. Le génie européen ne vient pas du fait qu'on rapprocherait les peuples par le haut, en réduisant leur diversité culturelle, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Le génie européen, avant même le christianisme, au moment de Mare Nostrum, la pensée même occidentale, le rapport au réel, provient de ce qu'au contraire, c'est la friction de la diversité culturelle, la compréhension de la diversité culturelle, l'acceptation de la diversité culturelle qui fait du commun. Or, justement, l'imaginaire français, par son universalisme pour tenir ensemble les Celtes, les Latins, les Germains d'origine, puis les Italiens, les Espagnols, les Polonais, les Maghrébins, les Syriens, les Afghans, ce que l'on veut, a construit une vision du monde qui est une vision transcendantale, universaliste. Et donc, le défi qui se pose à la France, à l'Europe et au monde, c'est effectivement la réforme, mais la réforme insérée dans une cohérence entre les représentations culturelles, les institutions politiques et les politiques économiques. Un peuple, c'est comme un individu. La question importante, c'est la cohérence, l'harmonie entre la façon dont il noue un rapport au réel, en France toujours projectif, dans l'espace, le temps, une incarnation, un projet politique, et puis ensuite les politiques et les rapports sociaux. Donc pour terminer, Emmanuel Macron a compris le rapport des Français aux politiques. Contrairement à François Hollande, pour qui j'étais dans les comptes de campagne en 2012, et ensuite en vain j'ai essayé de lui faire abandonner l'idée que l'économie fait la société, ou qu'il pourrait y avoir une présidence normale. Donc, Emmanuel Macron comprend les ressorts politiques, mais il attribue à la classe politique, aux institutions, les origines de nos malheurs. Et moi, je crois que non. Le dysfonctionnement des institutions n'est pas la cause de nos malheurs, c'est l'effet de nos malheurs qui proviennent de ce que notre pays, pour s'assembler, se mettre en mouvement, accepter la réforme, ne peut pas se déployer mentalement dans l'espace et le temps. Et donc, au fond, il y aurait une contradiction entre les raisons intimes et profondes de la victoire d'Emmanuel Macron, immanente, projective là-dessus, lors du dernier débat ici, c'était Revaud-Dallone qui rappelait la phrase d'Hobbes. Le monarque interprète le spectacle du peuple. C'est le peuple qui fait l'histoire. Et Macron, les acteurs, ce sont des acteurs, ce ne sont pas des auteurs. Alors les acteurs ont plus ou moins de talent. Emmanuel Macron a un talent immense. Mais on voit le monde extérieur à partir de son monde intérieur. Son monde intérieur est le monde du « et ». Et donc, il pense qu'on pourrait marier dans l'état d'extrême gravité de l'Europe et du monde, qu'on pourrait marier, faire une sorte de syncrétisme entre l'imaginaire allemand quand il va voir Angela Merkel et l'imaginaire français qui a fait son élection. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut procéder. On ne peut pas marier. Et j'aime bien cette phrase du psychanalyste Jung, la solution n'est jamais à la hauteur du problème. Donc le sujet n'est pas le face-à-face entre l'imaginaire français et l'imaginaire allemand, c'est plutôt un imaginaire français qui permettrait à l'allemande de dire à nos amis allemands d'essayer de comprendre pourquoi l'Europe recule économiquement et régresse très gravement politiquement partout, en quoi l'élection de Macron n'est pas du tout un blanc-seing à ce que les affaires européennes reprennent comme si de rien n'était, et je disais dans un papier récent dans la revue Commentaires, le fait de réparer les imaginaires nationaux en faisant en sorte que la globalisation économique, financière et numérique rentre dans le lit de la mondialisation mosaïque de peuples divers culturellement. Voilà, merci de votre attention.
Alors, voilà, merci à Stéphane pour cette deuxième intervention. Je laisse la parole à Frédéric qui brûle de poser des questions.
Non, pas du tout. François m'a invité à relancer le débat qui, je crois, de toute façon, se relance tout seul, car je crois en la société. Mais plus sérieusement, je voulais demander à Nicolas, justement, si la réforme n'était pas possible aussi par accident de terrain. Au fond, certains disent que nous sommes en 1958, mais dans l'histoire du fondateur de la Ve République, on pourrait aussi remonter un peu dans le temps et se dire qu'un jour, un général fondé chez les jésuites a rencontré un certain nombre de responsables protestants, je pense notamment à André Philippe, et que cette conjonction accidentelle de l'histoire a sans doute fait beaucoup pour la fabrication de cette Ve République. Alors, évidemment, cher Nicolas, je te laisse répondre à ce que vient de dire Stéphane, mais c'était une sorte de descente de trois quarts.
Oui, je me souviens qu'il y avait une anecdote entre De Gaulle et André Philippe quand ils étaient à Alger, et un jour, André Philippe a fait l'impair de venir dans l'équivalent du Conseil des ministres, même si je crois que ça ne s'appelait pas encore comme ça, parce que c'était le CFLN en short.
Oui, mais il faisait très chaud.
Il faisait très chaud. Et De Gaulle l'a traité de petit garçon.
Vous avez oublié votre cerceau.
Voilà, vous avez oublié votre cerceau. Bon, donc l'anecdote est célèbre. Alors, l'accident de terrain, c'était la guerre. Et effectivement, la Ve République, avec ce que j'appelais sa belle mécanique, qui a quand même donné des résultats de l'efficacité, qui a marié autorité et efficacité pendant un certain temps, on pourrait dire les 30 glorieuses de la 5e, entre 58 et peut-être jusqu'aux années 80. Bon. Eh bien, cette autorité qui est revenue à l'intérieur de la démocratie, alors que toute la tradition républicaine française précédente avait été fondée sur la méfiance, pour dire le minimum, plus que la méfiance, le rejet, bien sûr, d'un dictateur, mais pas seulement d'un dictateur. Il faut se souvenir que Mendès France, lui-même, suscitait des peurs et des angoisses dans son petit parti, le Parti Radical Socialiste, parce que des radicaux pensaient que Mendès France aspirait à une forme de pouvoir trop personnalisé, trop autoritaire. Gambetta a été traité de dictateur, pas simplement pour le gouvernement de Tours, mais aussi après. Il a été hué par certains de ses amis républicains. Donc cette hantise, au fond, c'est la hantise du pouvoir, hein, qui a longtemps marqué la première tradition républicaine, elle a été changée. Donc prenons en acte, prenons acte de cela. Elle a été changée, et il y a une verticalité, une autorité centrale qui est à chaque fois renouvelée par magie. Je dis ça aussi par ironie, mais je le constate. Cette magie du président qui est investi d'une mission en qui l'on croit, je veux dire à la limite qu'on ait voté pour lui ou pas dès le premier tour, je parle de Macron bien sûr, Bon, il y a toujours un moment de légitimisme, c'est-à-dire en fait il y a toujours ce moment où beaucoup de gens, pas tout le monde, hein, je ne parle pas des extrêmes, mais beaucoup de gens ont quand même cette idée que la magie de l'élection présidentielle fait qu'on veut y croire, on veut accorder, peut-être pas un blanc-seing bien sûr, mais on veut accorder quand même un moment où on attend de voir les résultats. Donc Macron va bénéficier de ça, dans un contexte, et Stéphane Drozès a tout à fait raison, c'est ce que je disais aussi un peu en conclusion, un contexte sur lequel notre élection présidentielle, d'une certaine manière, nous a incité à faire un faux sens. C'est-à-dire qu'on n'a pas pensé la réforme de l'Europe pendant toute la campagne présidentielle. Il y avait des petits drapeaux dans les meetings de Macron. Alors tout le monde disait Macron est le seul des candidats pro-européens. Ce n'était pas vrai par rapport à Benoît Hamon, par exemple, mais enfin, peu importe. Alors, donc, très bien, mais derrière cela, il n'y a pas eu de débat fondamental sur ce qu'il faut faire dans l'Union européenne. L'Union européenne est évidemment dans une crise de dysfonctionnement, je dirais, mécanique, mais surtout dans la perte de sa raison d'être par rapport à la crise des migrants. Je ne veux pas faire de trémolo facile, mais enfin, bon... que des barques entières de migrants puissent couler dans la Méditerranée, c'est une honte pour l'Europe. D'ailleurs, qu'elle existe sous forme d'union d'État, même si elle n'existait pas sous forme d'union d'État, ce serait la honte pour le concert européen. Donc c'était absent de la campagne présidentielle, et c'est la question du sens. Et je suis d'accord avec Stéphane. Oui, effectivement, des réformes privées d'une finalité risque de ne pas être accepté. Mais alors, j'ai une question, pour relancer un peu notre ping-pong. Je n'ai pas bien compris quelle finalité caressait le plus Stéphane Drozès. Est-ce que c'est la finalité de la grandeur? Ok, on voit ce que c'est, De Gaulle, la grandeur, la grande France, amie avec ses voisins, bien sûr, mais on repart dans une projection de grande France. Ou est-ce que c'est la finalité... Par exemple, plus d'égalité, plus de fraternité, la finalité d'un progrès social. Il y a la crise de la grandeur et la crise du progrès.
Oui, oui. La question est très importante. Ce que je caresse, c'est le fait d'embrasser. En reprenant le mot d'André Malraux... où Malraux disait, la phrase est ressortie au moment du Brexit, je ne le savais pas, il disait « les Anglais ne sont jamais aussi grands que lorsqu'ils sont seuls », et il disait « les Français, eux, ont toujours besoin d'embrasser le monde ». Il disait « les croisades avant même les guerres napoléoniennes ». Donc je crois que le sujet de la France, nous ne sommes pas des Allemands, le sujet de la France n'est pas la grandeur. Le sujet de la France, c'est la projection. D'où notre arrogance, parce que ça doit vous arriver aussi avec nos étudiants étrangers. Comment vous caractérisez la France? Premier truc, les Français sont arrogants. Je dis, mais les Français ne se rendent pas compte du tout qu'ils sont arrogants, parce qu'ils pensent que les Allemands sont des Français en plus disciplinés, les Italiens des Français en plus chaleureux, qui chantent bien, les Anglais des Français en plus perfides, et le Français est absolument incapable spontanément. Moi, il m'a fallu... 20 ans de travail professionnel pour me dépayser avec notre universalisme. Les Français, et là c'est le second aspect de la question, les deux sont liés. Il n'y a pas d'un côté l'égalité et de l'autre la projection, justement parce que les Français confondent égalité et similarité. Ça marque tout, ça marque les spécificités du féminisme français, ça marque... Il n'y a pas d'un côté l'égalité et de l'autre la projection, les deux sont liés. Tocqueville disait les révolutionnaires de 89 sont les élèves de Descartes descendus dans la rue. Non. Non, ce que j'avais expliqué à François Hollande juste après les attentats islamistes, C'est pas la liberté d'expression que les Français ont défendue. C'est le droit de caricature qui, depuis Rabelais, permet dans l'humour de désingulariser les situations jusqu'au moine paillard, de sorte que l'égalité des conditions permette aux Français de s'assembler par la projection. Donc il n'y a pas d'un côté l'égalité et de l'autre la projection. Les deux sont absolument liés. Alors c'est Rabelais, c'est Marivaux dans les jeux, puisqu'on parle d'embrassade et de caresse. Dans les jeux de l'amour et du hasard, c'est le génie français que d'utiliser les émotions du marivaudage pour faire arriver à la raison. À la raison que l'espace d'une pièce, la comtesse devient la servante devient la comtesse, ensuite chacun retrouve son rôle social, mais l'essentiel est dit, c'est possible. Et c'est ça qui fait la possibilité de la révolution française. Alors il y a d'autres, évidemment, les historiens le savent, sur rapport des aristocrates à la bourgeoisie, comment ça s'est fait. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus, mais voilà, il n'y a pas l'égalité des conditions précède l'idée d'égalité. Il n'y aurait pas de Gracchus Babeuf, il n'y aurait pas de Commune de Paris si auparavant, depuis Rabelais, il n'y avait pas l'idée révolutionnaire que, au fond, n'importe qui peut prétendre à quelque chose dans notre pays. Donc si les Français vont au Mali, hein, j'avais eu cet échange avec François Hollande, il avait dit à Bamako, c'est le plus beau jour de ma vie politique. Bon. Et il n'y a que les Français et sans doute les Américains à penser qu'on a un truc à foutre au Mali. Hein. Les Français ne savent pas où est le Mali, ne savent pas la différence entre des Touaregs et des islamistes. Ils peuvent penser qu'en période de crise, on a quand même d'autres choses à faire que dépenser de l'argent. Et au fond, 75% des Français soutiennent François Hollande lorsqu'il va au Mali. Mais ce n'est pas l'intervention au Mali qui crée momentanément un réflexe d'union nationale, c'est le contraire. C'est le besoin d'union nationale qui crée la nécessité d'une projection commune quelque part dans le monde, de sorte qu'ensuite ça encastre notre différence. C'est-à-dire que dans la dispute commune qui est au centre de l'imaginaire français, des croisades à la colonisation, à l'Europe, il faut une projection commune de sorte que la dispute qui nous est consubstantielle s'encastre. Et donc, du coup, c'est une dialectique fine que cette projection commune. Et donc, il n'y a pas d'un côté chez nous la dispute et de l'autre le commun. La dépression vient de ce que la dispute et le commun étaient, jusqu'à la présidentielle, en panne. Et vous avez eu tout à fait raison de noter que, alors que les Français étaient mécontents de cette présidentielle, mécontents des candidats, ils se sont précipités aux urnes. C'est donc que derrière l'élection du président au suffrage universel, c'est un rite, nos échanges avec François dans le dernier étude, et le rite laïque républicain de cette monarchie républicaine, comme dans un rite religieux, ne provient pas seulement de la finalité élire un président de la République, mais le fait qu'en allant voter, on est bien relié aux voisins d'à côté, quoi. D'où cette nécessité chez nous de la verticalité. Alors, on ne se connaît pas, Nicolas, mais ça va venir. Et je connais quelqu'un depuis très longtemps qui est Danny Cohn-Bendit. J'ai travaillé pour lui. C'est un ami. C'est un Allemand. Enfin, c'est un Franco-Allemand. Quand je suis énervé avec lui, mais il ne peut pas s'énerver lui-même tellement il est gentil, je lui dis que c'est un franco-allemand, mais ni réellement il ne comprend la France, ni il comprend l'Allemagne, où il vaudrait tellement marier les deux. Alors, très content, il me dit, je fais, il est un peu, il a soutenu Macron, il a beaucoup aidé Macron dans ses relations avec l'Allemagne, Chasca Fischer, tout ça, vous le savez, bon. Mais le truc qui l'énerve quand même un peu avec l'actuel président, c'est le côté pyramide du Louvre, bon, voilà, bon. Alors là, il me dit, je fais un documentaire, excuse-moi, je suis un peu pris, je peux pas répondre à la sollicitation de ton ami qui organise un colloque, un autre truc. Il me dit, je suis très pris parce que, tu vois, je fais un long métrage sur la diversité en France. Alors je lui dis, oui, je te vois venir, Dany, tu fais un film sur la diversité en France pour montrer à quel point la diversité, c'est merveilleux, et tout ça, c'est bien, bon. Et je lui dis, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est justement parce qu'il y a beaucoup de diversité en France qu'Emmanuel Macron a tout à fait raison d'être dans la verticalité, parce qu'il n'y a que ça qui peut tenir ensemble. Alors ça veut dire que les jésuites, c'est pas seulement les deux corps du roi ou ce qui se passe après Charlemagne entre le spirituel et le temporel. C'est justement, puisque vous parliez, tu parlais d'égalité de Benoît Hamon, moi ça me fait penser aussi à ce que disait Marx sur Napoléon, hein, tu le sais, et vous le savez sans doute beaucoup dans cette salle, ce sont les jésuites qui m'ont permis réellement de comprendre Marx avec Raymond Aron, surtout pas les marxistes qui en général. En un mot, je vous la fais courte, mais sur l'articulation entre l'égalité et la projection, Marx dit tout, il dit tout là-dessus. Il critique pour s'en amuser Napoléon III et il s'intéresse à son oncle, parce qu'il a repéré que Napoléon III utilise dès son incarcération au fort de je ne sais plus où, l'imaginaire de Ham, oui, de son oncle. Et Marx se dit à un moment, mais comment est-ce possible que des, je crois, 400 000 soldats se soient aient accompagné Napoléon jusqu'à Moscou et puis ils reviennent, je ne sais plus, 50 000, toujours avec l'empereur. Bon. Alors il dit, évidemment, on peut penser que la Révolution française ayant donné aux paysans la terre, ils veuillent en faire profiter, non pas parce que la France serait grande, c'est moi qui rajoute, mais parce qu'ils veulent faire profiter les serfs d'Europe de ce que eux, la Révolution leur a donné. Et il dit, Marx, bon, d'accord, c'est une explication, mais c'est peut-être un peu court, et là, il dit, les Français, par égalitarisme, ont supprimé le droit d'aînesse, de sorte que les paysans avaient des lopins de terre, ce que Marx appelle les paysans parcellaires, de sorte qu'ils n'avaient pas de relation entre eux. Il n'y avait pas de marché. Ils exploitaient leur lopin de terre et vivaient quasiment en autarcie. Ils n'avaient pas de relation avec les autres. Et là, il dit en une phrase, l'articulation entre la question sociale et la symbolique politique projective, il dit « Chaque paysan était comme une patate dans un sac de patates dont l'empereur tient la hanse. » D'un certain point de vue, Emmanuel Macron, il comprend peut-être, ou inconsciemment, ou c'est dans le subconscient national, que la société numérique transforme les individus en patates et que la symbolique politique nécessite de tenir ensemble ces patates au travers d'une verticalité. Donc, il n'y a pas, pour moi, évidemment, de différence entre... Enfin, il n'y a pas à opposer la verticalité politique projective de l'horizontalité avec ses modalités inégalitaires pour les néolibéraux ou égalitaires pour les progressistes.
Il y a une question qui m'intrigue depuis quelque temps, de type historique, va être posée à Nicolas. C'est quand même intéressant ce changement finalement de système sur le fond d'une continuité d'un imaginaire commun. La Troisième République, la Quatrième République, et brusquement, à partir de 58 ou 62 pour l'élection suffrage universel, on passe à un autre système, j'allais dire catholique, finalement. Et Et ça marche, et ça dure, c'est-à-dire, enfin, encore une fois, les élections l'ont montré, tout ce qu'on vient de dire à l'instant l'a montré. Donc, qu'est-ce qui fait finalement ce seuil? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on franchit un seuil, alors qu'a priori, on pourrait se dire, finalement, là, bon, les 10e, 3e et 4e ont des inconvénients, mais enfin, elles ont quand même duré pendant quelques décennies, et apparemment, on n'a été pas trop mécontents. Alors, qu'est-ce qui fait ce passage?
Simple, c'est de dire que les changements qui interviennent à partir de 58 ont en fait été préparés déjà par des transformations en partie souterraines, mais qui datent au minimum des années 1930. Pour prendre un exemple qui va correspondre aussi à l'actualité des prochaines semaines, la pratique par exemple des décrets-lois, qui aujourd'hui s'appelle ordonnance, c'est exactement la même chose. À partir du milieu des années 20, mais c'est surtout dans les années 30, pour lutter contre la crise économique, vous avez des votes de la Chambre des députés, c'est le nom de l'époque, la Chambre des députés vote une loi d'habilitation que Giraudoux, par exemple, s'est empressé d'appeler ça plein pouvoir, qui ressemblait un peu à la même chose que ce qui pouvait se passer à la même époque en Italie avec Mussolini. Hein, donc on faisait des comparaisons de ce type-là. Donc la loi d'habilitation, c'est effectivement donner un chèque en blanc au gouvernement pour, pendant les 6 mois qui suivent, prendre sous forme de décrets qui auront valeur de loi, qui seront appliqués immédiatement, donc des mesures qui normalement, des réformes qui normalement auraient dû être des lois, c'est-à-dire auraient dû passer dans la délibération du Parlement. Donc, autrement dit, le dessaisissement du Parlement, il est déjà largement en cours. Dans la fin de la troisième, il s'accentue sous la quatrième, où la haute administration, la planification par exemple, fait des réformes de l'État vers l'État. C'est-à-dire qu'en fait, et ça c'est un élément de notre République, c'est que oui, il y a le Parlement d'un côté, le côté Paul Ricoeur, délibération, ou si vous voulez, le côté Habermas, certes, mais de l'autre côté, vous avez l'État avec ses décrets, son pouvoir réglementaire. Moi, par exemple, ça m'avait amusé quand je travaillais là-dessus. On pense toujours qu'un décret est l'application d'une loi. Donc, c'est la tradition républicaine. La loi est l'expression de la volonté générale. C'est Rousseau. La volonté du peuple s'exprime dans la loi. Et au fond, cette volonté, une fois exprimée, l'État, le pouvoir exécutif, n'est qu'un mécanique, un mécanique d'implantation, d'adaptation. Le décret ne peut pas être différent de ce qui était écrit dans la loi. Sauf que, quand vous regardez les volumes de lois et décrets, de temps en temps, vous tombez sur des décrets qui, effectivement, respectent la lettre juridique. Ils se font en fonction d'une loi. Sauf que la loi, elle peut dater de 20, 30 ans. J'ai même vu un décret, c'était le fameux décret de Jules Ferry, des années 1880, qui se réfère à des textes juridiques de l'Ancien Régime, pour pouvoir faire la politique anti-religieuse. Donc il y a des transformations qui se sont faites bien avant. L'autre réponse que je peux vous donner, c'est une réponse là, je dirais, d'historien aussi, il y a quelque chose, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre, il y a quelque chose qu'il faut revisiter, et ça rejoint aussi Macron et la pyramide du Louvre, il faut revisiter le rôle qu'a eu ce que moi j'ai appelé la politique cérémonielle des présidents dont tout le monde se moque, vous savez, les présidents Falière, Félix Faure, Émile Loubet, qui ont, pendant cette Troisième République, développé des visites, les tournées en province, un cérémoniel qui, alors évidemment, je ne peux pas sonder les reins et les cœurs, mais je pense que cette politique cérémonielle, un voyage de Félix Faure à Marseille, c'est 150 000 personnes dans la rue. C'est pas du tout les voyages présidentiels de l'époque Sarkozy-Hollande. Donc, je crois qu'il y a eu un horizon présidentiel. Bah, je peux pas dire ça, c'est pas très précis, mais un horizon présidentiel inscrit dans, faut-il dire imaginaire, ou en tout cas, la représentation que les Français ont eue du pouvoir. Au fond, il y a eu un horizon présidentiel qui démentait, à cette époque même, qui démentait la République parlementaire. Et on peut ajouter que en pleine, moi je pense qu'il y a eu un âge d'or de la République parlementaire. Hein, 1880-1930, ça fonctionne plutôt bien. Ça gagne la Première Guerre mondiale. Il faut se souvenir que pendant la Première Guerre mondiale, le Parlement gagne la guerre dans une certaine mesure, en se payant le luxe d'avoir 5 crises ministérielles. Il y a eu 5 présidents du Conseil pendant la Première Guerre mondiale. Et malgré cela, le régime tient. Hein, c'est la force du faible. Le faible qui change de gouvernement, mais en fait, il y a une force qui est derrière. Bon, ça s'arrête, je pense, vers 1930. Donc, l'horizon présidentiel était déjà là. Et finalement, même la popularité, on en parlait avec Frédéric, la popularité d'un Auriol, même d'un René Coty, qui n'est pas un président très actif, la popularité était assez incroyable. Hein. Donc, je pense que le fruit était mûr pour rentrer en conjonction la popularité, en fait l'attente d'un président et la force du président.
Une question, j'allais dire une dernière question avant que nous vous laissions justement la parole pour Stéphane. Je voudrais rappeler justement que le journal Réforme a été créé par des protestants résistants et qu'il a longtemps passé pour être gaulliste. Et ça, c'est une petite parenthèse, mais tout de même, en tout cas, l'un des deux fondateurs, le pasteur Finet, était tout à fait favorable au général de Gaulle. Cette parenthèse refermée, je voudrais vous dire que, effectivement, nous sommes à un temps particulier tout de même, le temps de la fin de la dispute commune, comme dirait Stéphane, et ce temps ne justifie-t-il pas, justement, dans la presse et les médias, une sorte de respiration? De temps suspendu ces derniers temps, et ce sera ma dernière phrase, c'est promis, le journal a voulu, comme il l'a fait en 2012, comme il l'a fait en 2007, donner sa chance au chef de l'État élu, non pas par esprit partisan, mais justement au nom de cette période particulière qui est la période de la fin de la dispute. Alors, ma question, Stéphane, c'est à quel moment cette période, si tant est qu'elle existe, elle n'existe peut-être que pour le journal Réforme, mais à quel moment et selon quelle modalité cette période de sérénité qui suit la dispute s'achève-t-elle et donne la parole à de nouvelles disputes ?
La France n'est pas un pays très serein, effectivement, parce que contrairement aux autres, comme le disait Malraux, on vit au travers de la projection sur les autres. Comme dans un couple, si les choses sont fusionnelles, on ne laisse pas... Et donc il n'y a pas de sérénité en France, on est toujours dans un état de dépendance. J'ai travaillé un temps pour la direction d'Orange et le responsable des jeunes français d'Orange allant à la Silicon Valley, lors d'un repas, il me dit « Tu sais, ce qui est très étonnant, c'est que les jeunes français, quand ils arrivent à la Silicon Valley, ils sont très mal à l'aise. » Alors je lui dis « Ah oui, pourquoi ?» Eh bien parce que ils regardent les autres et les autres ne les regardent pas. Hein, comme si le français avait toujours besoin d'exister au travers des autres. Hein, alors ça, c'est justement le fait que pour s'assembler, on doit se projeter, on doit être connu par les autres. Il y a une difficulté avec le silence et tout. Alors, tu as observé que Emmanuel Macron a dit quelquefois qu'il ne voulait pas se laisser imposer le temps par les médias. Il voulait prendre son temps. Justement, il avance très très lentement hein, à la pyramide, comme si c'était une invitation à la respiration. Je pense que là encore, il y a une petite tension chez lui. C'est-à-dire que de la même façon qu'il dit En Marche, sans préciser exactement où il amène la France, alors que les Français en ont besoin, et ce qui explique d'ailleurs sa difficulté à pénétrer dans les catégories populaires, car on le sait, sa légitimité n'est pas si forte que ça à l'issue de la présidentielle, quant à la nature des votes, hein, vous l'avez entendu, les votes pour Macron sont plus des votes d'opposition que des votes d'adhésion à ce qu'il est, ou le fait qu'aux législatives, il devra sans doute, contrairement à ce qu'il pensait initialement, mener lui-même la bataille en première ligne. Mais je pense que il dit innovation, mais il dit pas progrès. Où il est le progrès? Il dit à combat. Or, les Français fonctionnent au progrès. Ils fonctionnent pas seulement à l'innovation. On est excellent. Les entreprises françaises sont les deuxièmes au monde en termes d'innovation. Nos jeunes peuples, je l'ai dit, la Silicon Valley ou Londres ou on a besoin sans cesse de se dire c'est quoi le bout du chemin, à peu près l'idée du bout du chemin, justement pour qu'ensuite on discute de tout ça. Le progrès, quelle est la vocation des débats sur le progrès? C'est que si on est de droite ou de gauche, libéral, gaulliste, on va se disputer sur c'est quoi réellement le progrès, comme autrefois on se disputait sur les colonies entre Lyautey et Ferry. Hein. On n'avait pas du tout les mêmes conceptions de la colonisation. Donc on a toujours besoin de cette dispute commune. Et ce qui m'inquiète, c'est au fond la question de la butée européenne. Et dans ce qu'a dit hier ou avant-hier Macron à Angela Merkel, alors peut-être qu'il a un autre plan, mais il a semblé acter l'idée que disent certains de ses amis, c'est que, au fond, pour faire bouger l'Allemagne, il faudrait donner des gages à l'Allemagne sur les types de politiques européennes. Or, évidemment, les conceptions qu'ont les Allemands des bonnes politiques monétaires et budgétaires, c'est pas un débat de théorie économique, c'est quelque chose lié à l'imaginaire allemand, qui est qu'à partir de 1945, les Allemands transfèrent à l'économie, après le militarisme et le nazisme, ils transfèrent à l'économie l'idée que pour éviter, parce que le problème français, c'est qu'est-ce que j'ai à faire avec le voisin d'à côté, et le problème allemand, c'est l'inverse. C'est, je sais très bien que mon voisin à côté, c'est un Allemand, mais comment ne pas se déchirer entre nous? Ça date de la guerre des paysans et de la guerre de 30 ans. C'est-à-dire que leur modalité d'assemblage, c'est sans cesse de construire des éléments de civilisation entre eux, par le parlementarisme politique, les compromis sociaux dans les boîtes, dans le management des boîtes à l'allemande, c'est le plan d'expérience. En France, le patron français va dire « voilà où on va ». Et alors tout le monde s'assemble derrière. Le patron, le management d'un monde, c'est pas du tout ça. C'est on met autour de la table les gens et c'est de leur discussion entre eux qu'on va définir la stratégie de l'entreprise, du service, de comment travailler. Donc malheureusement, Frédéric, j'en termine là, je ne vois pas de période où la dispute commune s'arrêter. Oui, décidément, la France reste culturellement la France, et ça a donné un temps le catholicisme, mais même lorsqu'il s'amenuise un tout petit peu au plan spirituel, la verticalité des origines perdure.
Merci. On va prendre, donc, il nous reste une demi-heure pour prolonger l'échange par des questions. Je pense qu'il y en a un certain nombre. Il y a un micro. Il va circuler. Il n'a pas le micro. Ah.
Ne partez pas, justement, au moment où vous pouvez parler.
Voilà, donc un micro va circuler. Alors, qui... Quelle question ?
Sinon, on en repose, hein, vous savez.
Hein. Alors, il y avait une question dans le fond.
Ah,
voilà. Je n'ai pas vu la main. Merci.
Je vous remercie. Ce que vous avez dit me fait penser à une phrase que j'ai entendue dans un débat politique, enfin journalistique, disant les Français, par rapport à l'étranger, par rapport à ce qui se passe à l'étranger, notamment dans les pays peu développés ou plus pauvres que nous, les Français vivent dans un paradis, mais ils sont persuadés d'être en enfer.
Ah.
Sauf que ça illustre un peu ce que...
Oui, oui. Et quand j'avais vu cette phrase, je crois que j'avais répondu sur un mur Facebook. Je ne sais plus qui a dit ça. C'est un auteur, non, un philosophe. C'est un philosophe, je crois, ou un intellectuel actuel, je ne sais plus. Oui, les Français vivent dans un paradis et se croient en enfer. Et j'arrivais à répliquer, il eussent mieux valu qu'ils fussent au purgatoire et pensent arriver ensemble au paradis. Car la réponse est juste, il faut expliquer pourquoi les Français sont les plus pessimistes au monde, alors que même si notre modèle social s'est un peu dégradé, notre situation est absolument enviable et enviée. Là, vous savez, la situation du salarié français est bien meilleure que la situation du salarié allemand, par exemple. Ça ne pose pas de problème tant que ça aux Allemands. Par contre, nous, notre dépression n'a pas du tout des raisons économiques et sociales. Elle a des raisons culturelles, enfin c'est ma thèse que je développais tout à l'heure, c'est parce que les Français ne peuvent plus se projeter ni dans l'espace, ni dans le temps, ni dans une incarnation ou un projet politique, ils sont déprimés. Momentanément, Macron, il essaye de représenter une incarnation politique. On verra. Mais derrière, évidemment, il faut que les choses, ce que vous disiez, il faut que les choses suivent, peut-être pas forcément en termes de résultats, mais il faut que l'extérieur bouge. Il faut que les Français sentent qu'ils ont une prise sur le cours des choses. Et rien ne me fait autant peur que quand je vois certains dans l'entourage d'Emmanuel Macron sur la question de l'Europe, reprendre les antiennes du genre si l'Europe ne va pas bien, c'est parce que la France ne s'est pas assez réformée. Bon. Là, donc il y a une contradiction en un mot entre, selon moi, les raisons profondes de l'élection de Macron et d'autre part ce que certains dans son entourage voudraient en faire.
Nicolas ?
Oui, enfin, si on peut jouer aussi sur les mots, peut-être que les Français savent, dans un coin de leur tête, ils savent qu'ils sont dans un paradis et ils préfèrent dénoncer ou anticiper l'enfer pour protéger leur paradis aussi. C'est peut-être un peu ça. C'est quand même frappant, effectivement, que nous sommes dans un pays où... À la fois, on passe son temps à faire une comparaison avec les pays voisins sur les performances économiques, et en même temps, on le fait pas vraiment. J'étais frappé, là, je lisais cet après-midi, il y a des chiffres qui sont sortis du chômage en Angleterre, et le chômage en Angleterre a maintenant atteint son niveau le plus bas depuis 1975. C'est-à-dire qu'en fait, il est plus bas qu'au début de la fameuse crise, les chocs pétroliers. Et en même temps, l'article, c'était un article d'un journal du soir, qui pense toujours à dire « et ceci, et cela ». Donc ce journal du soir, bien informé...
Ah, on fait son métier, son petit métier, voilà, après...
Quand j'étais étudiant, on disait... Le journal le plus compétent, bon, disait, et alors mais c'est vrai aussi, c'est très important, hein, c'est la tension dont on parle depuis un moment, qu'il y avait eu une création d'emplois très importante en Grande-Bretagne dans les dernières années, et c'était des emplois de ce qu'on appellerait des emplois Uber, y compris les vrais Uber, mais aussi des formes d'Uber dans d'autres domaines que le transport routier, le taxi. Donc des gens qui, en fait, sont payés simplement au service rendu et parfois hors contrat. Voilà, donc c'est ça le nœud. Je crois que quand on est assez honnête, enfin, je sens qu'il y a beaucoup de gens, qu'est-ce qui est préférable entre le chômeur à la française, malheureusement, souvent dans le chômage durable, et puis se sortir du chômage, mais être dans un travail avec des conditions qui ne correspondent pas du tout à au progrès social que l'on avait fait. Je note, pour aussi répondre à Stéphane, que dans le vocabulaire de Macron, il n'y a pas le mot « progrès ». Il y a le mot, disons, chaque individu doit prendre confiance en lui, en marche. Et le mot qui compense l'aspect angoissant de marcher, peut-être même courir l'adaptation à la globalisation, le seul mot qu'il consent, en quelque sorte, c'est protection. La première syllabe est semblable à progrès, mais ce n'est pas du tout la même chose. C'est protéger ce que l'on a, c'est-à-dire la sécurité sociale à peu près, mais sans plus, sans dire qu'on va ajouter quelque chose. Donc c'est bien, je ne sais pas si c'est conscient de sa part, c'est bien une manière, effectivement, de renoncer à l'idée du progrès dans l'histoire, enfin, le côté hegelien, quoi. Ça m'a assez frappé.
Une main s'est levée au milieu. Alors, c'est ça. La première qui s'est levée. Ensuite, devant, il y a une autre main qui s'est...
Allez, vous, monsieur.
Oui, allez, c'est bon.
Merci beaucoup pour cet exposé. J'avais une question, en fait, concernant la France comme nation unitaire. Vous avez beaucoup présenté la France. Alors, je me pose la question des France aujourd'hui, notamment parce qu'on a, finalement, dans la verticalité ou dans l'horizontalité, la notion de la globalisation, les mégalopoles en profitent, zone rurale beaucoup moins. La verticalité, finalement, c'est quand même l'État en lui-même. Est-ce qu'on n'est pas, finalement, sur une société qui est de plus en plus divisée ? On le voit aussi avec le vote tel qu'il a été représenté, avec des antagonismes réels au niveau politique, et que, finalement, on a aujourd'hui une réforme qui va s'appliquer à une nation qui est la nation française, mais qui va forcément laisser de côté un certain nombre de personnes qui ne se reconnaissent pas dans les décisions qui sont prises. Donc ma question est notamment, peut-on parler des France, des réformes, et comment va-t-on faire pour s'adapter à cette diversité ?
Merci. Stéphane ?
Ce qui me frappe, si on prend effectivement du recul, c'est que effectivement les inégalités s'accroissent au plan spatio-social. Oui, les géographes, les politologues parlent beaucoup de ça, mais en même temps, le pays se recentre idéologiquement. Vous prenez certains discours de Mélenchon dans la deuxième partie de sa campagne, au moment où il abandonne la ligne gauchiste, écolo-gauchiste, pour aller plutôt sur une ligne patriote jaurésienne. Vous écoutez certains de ses discours, vous voyez certaines des images, notamment à Marseille, et vous retirez le fait que c'est Mélenchon qui parle, vous vous dites... Tiens, ça peut ressembler un tout petit peu à Le Pen, sauf que le patriotisme de Mélenchon, il est projectif, et donc réellement projectif, alors que chez Marine Le Pen, il y a une petite tension entre la ligne Philippot et la matrice de départ. Mais au fond, peu importe les acteurs, les sensibilités politiques, ce qui me frappe, c'est plutôt le recentrement idéologique de la France. Quand j'étais jeune, il y a très longtemps, dans les années 70, Il y avait clairement les anticapitalistes et les autres, les libéraux, les défenseurs de la liberté et tout. C'était véritablement un antagonisme idéologique très fort. Ça provenait justement, la dispute pouvait se déployer parce que le commun dans l'espace et le temps était assuré. Donc la dispute pouvait se déployer. Maintenant, c'est le contraire. On pense que demain risque d'être pire et momentanément l'Europe n'est pas la France en grand. Donc le pays se recentre idéologiquement. Le commun idéologique opère cette mutation et la représentation, la symbolique politique l'emporte sur la question sociale. Hein. Bon. Donc je répondrai les choses de la façon suivante. Au fond, Quand un individu ne sait pas comment il va finir ses fins de mois ou il ne sait pas comment il va payer ses études à ses enfants, la question première devient la question identitaire. C'est quel est mon apport à la société, quel est mon lien avec les autres. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'un côté la question sociale, et de l'autre, la question identitaire, les deux sont intimement liés. Ils sont intimement liés justement parce que la grande inquiétude française, c'est qui je suis et quel est mon rapport avec le voisin d'à côté. Et donc, c'est ça qui explique. Donc, on peut se raconter qu'il y a des divisions partout en France, mais c'est justement parce qu'il y a des divisions partout en France, objectivement, que la France ne peut pas se projeter dans l'espace et le temps, qu'il y a un recentrement idéologique où, au deuxième tour, hein, on a quand même un spectacle incroyable où Macron dit à Marine Le Pen « Vous n'êtes pas patriote, vous êtes nationaliste » et Le Pen dit à Macron « Vous n'êtes pas patriote, vous êtes un mondialiste qui défendait les banquiers ». Donc, si on entend bien ce qu'il vient de dire, c'est qu'ils sont en train de se battre tous les deux sur un pré carré très très court. Ils se revendiquent chacun du patriotisme, comme s'en revendiquait Mélenchon, hein, d'où la fusée Mélenchon et l'absence d'Hamon, parce qu'Hamon n'a pas puisé à l'imaginaire français. Je pense qu'il ne sait même pas ce que c'est. Mais ce qui me frappe, c'est la question du précaré dans lequel le pays se débat, qui est un précaré, au fond, très, très réduit, très réduit.
Nicolas ?
Oui, je sais. Le thème des fractures a été central dans la campagne, dans les médias. Le géographe sur la France du vide a été vraiment le tube de toute la campagne électorale. Bon, c'est difficile. J'ai eu l'impression, là je vous parle en termes presque de sentiments impressionnistes, à un moment donné, à force d'entendre ce thème, j'ai eu l'impression que soit c'était aussi exagéré, un peu rhétorique, c'était devenu rhétorique, soit c'était la redécouverte de l'eau chaude. C'est-à-dire que, il y a des classes sociales, il y a des inégalités, il y a des jalousies, une forme ou une autre de lutte de classe. Les territoires n'ont jamais été de toute façon si homogènes que ça. Il suffit de connaître certaines régions très rurales. Elles étaient beaucoup moins reliées qu'auparavant, qu'aujourd'hui, enfin à certaines époques. Bon, donc je me demande si on ne sait pas soi-même monter la tête avec cette histoire de France totalement fracturée. Vous voyez, j'ai l'impression, je vous choque peut-être en disant ça, parce que c'est pas une manière de nier les fractures, hein, bien sûr que non. Mais c'est quand même une manière de dire qu'est-ce que c'est plutôt le discours d'un pays qui tout d'un coup se dit obsédé par des fractures qui, pour une bonne part, ont toujours été là. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est de dire qu'il y a, parmi les différentes Frances, il y a une France qui est absente de toute la campagne, et qui est absente surtout alors qu'elle aurait dû être présente du côté de la gauche, c'est la France qui nécessite une redéfinition de la laïcité. C'est un autre débat, hein, bien sûr, donc je ne vais pas le commencer ici, mais je pense que, bon, par exemple, Benoît Hamon répétait benoîtement toute la loi de 1905, rien que la loi de 1905. Point barre, on ferme le débat. Ça me semble, je dis ça volontiers alors que j'ai voté pour lui au premier tour, vous voyez, donc c'est bon, ça n'empêche pas, mais ça me semble quand même effectivement une manière pour la gauche de s'empêcher un renouvellement qui me semblerait être important, y compris même peut-être d'un point de vue de stratégie électorale, mais surtout du point de vue politique au sens profond. Voilà. Donc la campagne électorale n'a pas parlé de cette France-là. Une fois, Benoît Hamon a eu une phrase, peut-être que certains d'entre vous penseraient bisounours, il a eu une phrase, il a dit « Les problèmes auxquels sont confrontés les Français dans les quartiers » puisque c'est comme ça qu'on dit maintenant, on dit même plus quartier difficile, les banlieues, on dit les quartiers. Les problèmes auxquels sont confrontés les gens dans les quartiers sont les mêmes que ceux qui sont dans la France du vide. C'est-à-dire la France du vide dans laquelle il y a beaucoup de votes Le Pen, par déclin des services publics, etc. Et je trouvais que ça, c'était quelque chose d'intéressant. Et ça n'a pas tellement été alimenté ou poursuivi par Benoît Hamon.
Merci. Voilà, il y en a qui s'est levé au milieu, chemise bleue.
Et
Willem. Il y a une chose qui me frappe, c'est que vous n'avez pas du tout prononcé le mot confiance. Je pense qu'on a une tension en France entre confiance et suspicion. Je pense que quand on parle de réforme, la confiance est absolument capitale. Je termine 40 années de carrière dans une multinationale française qui est en l'occurrence leader dans son marché et qui n'a fonctionné que grâce à la confiance. La confiance dans la stratégie clairement énoncée, la confiance dans la méthode poursuivie, la confiance dans le fait qu'on est embarqué à chaque fois qu'il y a des réformes par le management. Je pense qu'on n'est pas plus idiot en tant que Français dans une multinationale que les Français en général. Et je ne comprends pas pourquoi j'ai l'impression d'avoir vécu dans un monde complètement différent de celui que vous avez décrit. Le monde dans lequel j'ai trempé n'était pas du tout un monde déprimé, tout au contraire. C'était un monde qui y croyait, qui était conquérant, mais qui était aussi très attentif au sort de l'ensemble des personnes de l'organisation. Oui. Oui. Donc pourquoi est-ce que ça ne marche pas au niveau du pays, alors que ça marche, à mon avis, dans beaucoup d'entreprises françaises qui fonctionnent, qui ont des grands succès dans leur business.
Merci. Stéphane.
Que justement, les entreprises qui créent de la valeur, alors il y a deux sujets, hein, vous parlez de multinationales françaises, bon, c'est pas à vous que je vais apprendre, par moment les tensions qu'il peut y avoir entre création de valeur et valorisation de l'entreprise. Mais quand ça fonctionne, il n'y a pas de tension. Et selon moi, parce que je travaille essentiellement pour des boîtes, hein, là, les débats ou ce que je fais dans les médias, en fait, mon business, c'est les boîtes. Bon, ce que j'observe, c'est que les entreprises qui créent de la valeur sont celles où il y a une cohérence entre son identité, son management et son projet de déploiement sur les marchés. Bon. La culture de l'entreprise procède de son histoire capitalistique et de ses métiers. Le management doit être en ligne effectivement dans la bonne articulation entre les hommes et les choses, capital et le travail, et puis il y a le déploiement. Et quand ça fonctionne, effectivement, et la France a de très beaux fleurons, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion, il y a 17 patrons français de multinationales étrangères, hein. C'est absolument énorme. Donc il y a une capacité, dans le génie français, et en général, ils ne se prévalent pas du fait qu'ils sont français à l'étranger. Hein. Bon. Mais il y a une capacité chez les Français à tenir ensemble le global, hein, c'est le positif. On a parlé par moments du négatif de l'imaginaire français, à juste titre. Bon, mais le positif, quand ça fonctionne bien, c'est la capacité d'articuler un propos général qui doit être celui des multinationales, et puis l'adaptation, hein, au terrain, à ce qui se passe et tout. Alors, le problème de la dépression française, c'est justement ça. C'est que l'État se retire de la nation, pas seulement du point de vue des politiques menées, insérées dans un environnement européen, mais même culturellement. Et c'est quand je disais à Nicolas que j'étais très content qu'il y ait des enseignants comme lui à Sciences Po, c'est que ça a baissé. Moi, j'enseigne depuis 27 ans, et Richard Descoings a fait des choses très bien, mais la perte des humanités... le fait que nos élites ne lisent plus de romans, pas de poésie, ils vont pas au théâtre, et donc du coup ils peuvent pas comprendre l'intimité des choses entre les questions culturelles, c'est-à-dire l'articulation entre le gouvernement des hommes et le gouvernement des choses. Si vous avez un président de la République qui dit l'économie fait la société, d'ailleurs je lui avais mobilisé Carlos Ghosn qui lors d'une commission parlementaire, justement, à la question « qu'est-ce qui fait la compétitivité de Renault ?» avait dit son identité. Il dit « mais tu vois, pour déployer le génie français, quand au Bourget, il dit « le problème, c'est pas la France, c'est la solution », d'un certain point de vue, Macron reprend par son geste même un tout petit peu ça. Donc, une nation se déploie quand il y a une cohérence entre sa modalité d'assemblement qui... entraîne sa façon de penser, d'innover, de créer, de travailler. Bon, les politiques, les institutions, et puis les politiques économiques et sociales qui sont menées. Donc, je dirais pas que c'est plus facile pour une multinationale que pour la nation française, mais le problème de la nation française, c'est que c'est nous qui avons inventé l'Europe avec un Italien, hein. Monet, Schuman, c'est notre côté projectif qui nous a fait envisager l'idée qu'il était possible de faire vivre ensemble des gens très divers, puisque c'est ce que nous faisons depuis des siècles. Mais nous connaissons là un basculement, et pour répondre à la question de la permanence des institutions de la Ve République, il y a un moment où ça a été attaqué, c'était 68. Mais, en fait, les institutions ont servi à la modernisation du pays. Il y a eu un moment où il fallait mettre à bas toutes les verticalités. Le général de Gaulle qui nous emmerdait, le pater familias, le macho dans la famille, le garde-chourme, le gradé dans les casernes. Bon, il y a eu ce moment où il y a une convergence entre les phénomènes d'individualisme, d'individuation, d'esprit autogestionnaire et tout. Et maintenant, les institutions tiennent non pas par la cohérence entre l'État et la nation, mais par le rite présidentiel lui-même et sa symbolique. C'est la thèse, effectivement, que je défends. Et la France est le pays le plus dépendant d'un extérieur qui se dérobe. C'est-à-dire que la France est le pays qui supporte le plus mal le passage du gouvernement à la gouvernance, qui supporte plus mal que le commerce international, les règles du commerce international soient basées sur l'efficacité juridique et non pas sur des règles qui procèdent des communautés humaines les précédentes. Bon, c'est le très beau travail d'Alain Supiot que je vous conseille, qui est professeur au Collège de France, hein, son livre remarquable qui s'appelle La gouvernance par les nombres.
Nicolas ? Oui, non, juste une petite chose. Moi, je peux témoigner plutôt du côté de la fonction publique. Et j'aurais le diagnostic malheureusement au contraire de ce que vous avez vécu. Donc c'est très intéressant d'entendre ce que vous dites. Et vous avez raison de dire le mot confiance, on ne l'avait pas prononcé. Mais moi, dans mon expérience, pas simplement à l'Institut d'études politiques, enfin le Sciences Po, mais d'une manière même plus globale, à l'université, dans la manière de faire de la recherche, la confiance n'est pas du tout là. Et Stéphane parlait de l'époque de Sciences Po de Richard Descoings. Bon, Richard Descoings a effectivement eu le génie de modifier l'image extérieure de Sciences Po. Mais en interne, c'était tout le contraire de la confiance. C'était le management par la terreur, comme on l'emploie dans d'autres entreprises. Donc vous avez échappé au management à la terreur, mais en fait, dans la fonction publique ou dans des institutions universitaires, on a le plus mauvais du management, en fait. Bon, je dis ça juste par témoignage.
Merci. Je crois qu'il y a eu une question devant. Jean-Paul Villain, je crois, avait posé une question. Enfin, bon, là ou l'autre. Voilà. Paul Willem.
Je pensais en vous écoutant une phrase d'Helmut Schmidt qui avait dit « Moi, je gère l'entreprise Allemagne. Pour les questions de valeur, il y a des institutions spécialisées pour cela. » Et j'avais étudié des discours de Helmut Kohl, CDU catholique, Helmut Schmidt, SPD protestant, qui tous deux relativisaient la capacité du politique à fondamentalement faire le bonheur de l'homme. Donc une auto-limitation du politique de la part de deux grands leaders politiques. Et donc je voudrais un peu vous interroger, vous faire réagir par rapport à ce que Dominique Schnapper appelle la transcendance du politique en France. Et Dominique Schnapper semble en avoir une forte nostalgie en disant que la transcendance républicaine ne marche plus aujourd'hui. Et il me semble percevoir dans la verticalité à la Macron, ce n'est pas le retour de la transcendance du politique. Il veut simplement, effectivement, respecter un certain nombre de rites absolument nécessaires, incontournables, mais sans réintroduire la transcendance du politique. Et ça rejoint la réflexion très profonde que vous amorciez au début de votre propos, M. Rousselier, à savoir qui réforme. Est-ce que la mise en marche, c'est pour statifier, rigidifier un autre système, ou c'est pour constamment se mettre en marche? Et autrement dit, introduire l'esprit de réforme dans la société elle-même, sans qu'on rejoue la dramaturgie du grand soir, ou qu'on va remplacer un système par un autre. Et donc le poids dans l'imaginaire politique français du schéma de la rupture, du romantisme révolutionnaire, qui me semble nous différencier d'autres pays. Enfin, je voudrais un petit peu avoir votre point de vue sur ces quelques commentaires. Merci.
Il y avait les phrases, elles sont restées célèbres, les phrases de Michel Rocard, justement, hein, sur la modestie que le politique devait avoir. C'est des phrases des années 80, ou fin des années 70, les années 80, quand j'étais étudiant à cette époque-là, dans les années 80. Et j'avais complètement adhéré à ça. Mais je suis quand même profondément inquiet de la situation actuelle, des tensions. Ce qui fait que, même en faisant mon livre finalement prend le titre de « La force de gouverner », j'ai fait une étude de l'exécutif pour arriver effectivement à la matrice du général de Gaulle, cette force autoritaire. Donc c'est une étude que je pense être assez objective, si vous voulez. Mais c'est assez amusant parce que je l'ai faite progressivement à l'encontre de mes préférences de citoyens qui sont immanentes, qui sont protestantes, qui sont être témoin de ce que l'on peut faire ensemble ici et maintenant. Et puis je dois dire que quand même, notamment la lecture de Gaulle, des écrits, de ses discours, plaide pour la nécessité d'un tiers autoritaire, d'un pouvoir supérieur. Il y a le titre d'un livre d'un politologue américain, Mansfield, qui s'appelle « Le prince apprivoisé ». Et j'en suis venu à cette position de me dire, bon, le prince, le pouvoir comme autorité, on peut espérer l'apprivoiser, mais pas en faire l'impasse. J'ai vieilli aussi.
Oui, je voudrais avoir le point de vue du catholique répondant à un protestant et répondant à la réponse du protestant au protestant, si vous me le permettez ici même. Il y a un désaccord sur, au fond, qu'est-ce qui fait effectivement la société, hein? Bon, je ne crois en rien que le prince impose quoi que ce soit. Le prince n'est qu'un acteur. Il n'est qu'un acteur, c'est-à-dire que le français catholique croit que c'est le haut qui fait le bas, l'esprit qui est séparé du corps et l'esprit ferait le corps. Bon. Alors que selon moi, le processus réel, c'est effectivement, c'est l'inverse. C'est un processus immanent. C'est le bas qui fait le haut. Mais le haut pense que c'est lui qui fait le bas, et tout le monde est persuadé en France que... Regardez ce qui se passe aujourd'hui, c'est frappant. On dit « Macron recompose la vie politique avec son gouvernement ». C'est l'inverse. Avant même qu'il ne soit candidat à la présidentielle, c'était l'homme politique le plus populaire. Pourquoi ? Parce que le haut, les journalistes, les politologues, les politiques, croyaient encore, avec 20 ans de retard, que le sujet de leur électorat était, si on est de gauche, on est du côté des patrons, du profit et de l'offre, et inversion. Je deviens macronien, au secours. Donc, si on est de gauche, on est du côté de la redistribution. Les salariés, voilà. Si on est droite, on est du côté... Non, en fait, c'était plus le sujet. Le sujet ne portait pas... C'est aussi une réponse à monsieur tout à l'heure. Le sujet ne portait pas sur le souhaitable. Tous les Français aimeraient conserver le modèle social et républicain qui est le nôtre. La question, c'est est-ce que c'est possible dans le monde tel qu'il est. La gauche dit oui, c'est possible, au risque du conservatisme social. Car l'antilibéralisme n'est pas l'anticapitalisme. C'est même le contraire. Puisque les antilibéraux veulent préserver les rapports sociaux, alors que les anticapitalistes, eux, veulent les remettre en cause. Mais dans la réalité, c'est la globalisation néolibérale qui remet en cause les rapports sociaux. Bon, d'où cette inversion. Or, Macron, lui, pourquoi était-il l'homme politique le plus populaire avant qu'il ne soit président ? Mais parce que, justement, il semblait dire qu'il était possible à la fois de survivre en promouvant la compétitivité des entreprises, et à la fois il semblait avoir un petit souci quand même du social. Ce que je veux dire par là, c'est que Macron, dès cette époque, il n'est que l'émanation de ce qui se passe par en bas le pays. Vous voyez, c'est pareil pour les débats intellectuels. Mais on dit Marine Le Pen vampirise la vie politique française, c'est ce qu'on disait il y a 3-4 ans. Non. C'est tout le contraire. C'est Marine Le Pen qui, pour accéder au pouvoir contrairement à son père, comprend qu'elle doit revenir dans la matrice imaginaire républicaine en donnant sa propre définition de la République et de la laïcité. Hein? Donc, moi j'ai mis après 15-20 ans à comprendre ça. C'est que les gens pour qui je travaillais avant une campagne présidentielle et pendant la campagne présidentielle, je voyais leur évolution. Celui qui l'emporte est celui qui accepte de rentrer dans le creuset du pays pour en être ensuite, l'interprète. Donc, le prince. C'est vraiment la très belle phrase qu'avait ressorti Revaux d'Allonne, Dobbs. Le prince, le monarque interprète le spectacle du peuple. C'est le peuple qui fait le haut. Alors que nous sommes tous ici convaincus que c'est le contraire. C'est pas le contraire. Donc les Français sont des cartésiens qui pensent que l'esprit fait le corps, alors que ce qui agit le réel, c'est tout le contraire. C'est le corps fragmenté du pays qui fait que pour le faire tenir ensemble, il y a un monsieur qui s'appelle Descartes et qui raconte contre Spinoza que l'esprit est séparé du corps et que l'esprit fait le corps. Donc, dans la discussion entre les protestants et les catholiques, il y a une sorte, il faudrait presque écrire quelque chose rien que là-dessus, hein, sur les catholiques, les protestants en France. C'est-à-dire, vous êtes immanent dans le rapport à Dieu et ce que devrait être l'articulation de la société, mais vous pensez néanmoins que c'est le prince, le haut, qui fait le bas. D'où le terme, moi je ne suis pas d'accord avec le terme autoritaire, Quelqu'un qui a de l'autorité, c'est pas quelqu'un qui est autoritaire. Quelqu'un qui est autoritaire, c'est quelqu'un qui impose du haut quelque chose au bas. C'est, selon moi, c'est pas ce qui se passe.
L'homme du destin, disait Churchill de Gaulle. C'est-à-dire, au fond, l'autre mot qui n'a pas été prononcé pour l'instant, pardonnez-moi de cette parenthèse, c'est l'incarnation tout de même. Tu étais à côté en disant, tu tournais autour, hein, interprétation.
Je voulais pas réveiller une vieille polémique sur la grâce.
On abordera une autre occasion. Voilà, encore une dernière question rapidement, peut-être. Puisque nous avons déjà dépassé l'heure. Allez-y.
Oui, je me permettrai de, non pas de critiquer, mais de nuancer ce que vous dites, Stéphane Roset, sur le catholicisme, comme s'il y avait un seul catholicisme. Le catholicisme italien n'a rien à voir avec le catholicisme français. Et je crois qu'il faudrait même préciser que la caractéristique du catholicisme français, c'est qu'il est soumis à l'État. C'est un catholicisme dépendant de l'État, ce qui n'est pas la même chose.
Dès Charlemagne, dès la disparition de Charlemagne, on se caractérise par la...
Ça date de façon extrêmement précise, hein, un peu de Richelieu et surtout de Louis XIV. Hein, c'est là où, si vous voulez, le catholicisme
l'État tel qu'il se fait, mais d'un point de vue de conception de fusion entre le spirituel et le temporel, c'est, me semble-t-il, déjà bien avant.
Si vous remarquez de façon extrêmement précise, c'est à ce moment-là que la culture française, avec l'Académie française, l'unité est conçue comme uniformité et non comme diversité. Je crois que c'est quand même... Ce temps-là est capital, et au XIXe siècle, je rejoins ce que dit très bien Nicolas Rousselier, les républicains savaient très bien le lien qui existait, Tocqueville, entre Louis XIV et la terreur révolutionnaire. Et si je dis cela, c'est que quand même, ce problème de la verticalité, ses racines sont extrêmement assez anciennes, et c'est ce qui fait la difficulté des choses. Ce qui m'amène à me poser la question de savoir si ce qui a été dit très important sur ce phénomène que la confiance n'existe pas en France. Alain Perfit avait fait un livre tout à fait intéressant où il avait montré que ce qui définissait les sociétés protestantes, c'était des sociétés de la confiance par rapport à la France où c'était des sociétés de la défiance. Donc je me pose la question de savoir si là-dessus, c'est pas en effet, je rejoins tout à fait les interventions antérieures, c'est pas un des phénomènes fondamentaux de la France. C'est une sorte de pessimisme fondamental. La dernière remarque, c'est une question que je vous pose. Est-ce que quand même tout notre univers, y compris dans le numérique, va à l'encontre d'un système purement vertical? Est-ce qu'on pourra longtemps conserver le système vertical avec justement tous les phénomènes d'horizontalité?
En 30 secondes, puisque nous avons largement dépassé le temps.
Là, pour la révolution numérique, je ne peux pas vous répondre. Là, je ne suis vraiment pas spécialiste et un praticien très, très maladroit. Donc, je ne peux pas vraiment vous répondre sur ça. Mais je suis d'accord sur l'idée du contrôle par l'État. Oui. Donc, en fait, c'est match nul, catholique et protestant.
Non, il n'y a pas de match nul, on a gagné.
Mais les catholiques ont...
on a gagné, justement, pour rejoindre le propos de monsieur. Oui, excuse-moi.
Mais les catholiques ont perdu en étant finalement contrôlés par l'État.
Mais oui, non, mais justement, moi, je rejoins ce que disait monsieur à l'instant, c'est-à-dire, chez nous, l'État s'est fait avant la nation. Et donc l'État s'étant fait avant la nation, la France s'est constituée évidemment avant la nation par processus peu à peu où il était nécessaire que quand, c'est-à-dire quand Louis XIV dit l'État c'est moi, il aurait pu rajouter l'État, la religion, tout ça c'est moi, quoi, parce que c'est lui qui tient ensemble, c'est lui qui, c'est l'État, c'est le souverain qui tienne ensemble la France à l'époque, car la nation en tant que telle n'existe pas. Et effectivement, alors pour répondre, monsieur, à votre, mon intuition, c'est que dans un pays comme la France, plus les individus sont séparés entre eux, segmentés, horizontalisés par le numérique, Uber, plus ils ont besoin de verticalité. C'est-à-dire, dans mon analyse, il n'y a pas d'un côté la verticalité et de l'autre l'horizontalité, je dirais au contraire. Et c'est quand, au contraire, la confiance est là dans l'avenir et dans l'ailleurs, qu'on trouve étouffant les verticalités. On trouve que De Gaulle, il nous emmerde, c'est une vieille baderne, on va le foutre dehors. On trouve que le macho dans la famille ras-le-bol, le pater familias, le mandarin. Et donc, du coup, c'est une dialectique où les choses ne peuvent pas se séparer entre le dispute et le commun. D'où le fait qu'on ne peut jamais stabiliser chez nous la confiance, parce que ce qui nous assemble, c'est une mécanique sans cesse de friction entre la dispute, le commun, la verticalité, l'horizontalité.
Merci beaucoup de vos interventions. Vraiment, vous voyez, une revue jésuite et un hebdomadaire protestant sont toujours très heureux de causer ensemble et de faire causer. Bonne soirée à vous.
Pourquoi il valait mieux commencer par la dispute pour terminer par le commun, ben plutôt qu'une sorte d'œcuménisme?
Ce n'est pas le genre de nos maisons quand même. Maison, hein.
Exactement.
Quand même. Bon, maintenant, allons manger.
Maintenant, allons manger.
Voilà.
C'est ça aussi, la
France. C'est aussi intéressant, le...
Mais on est en train de voir le monde.
Ah bon,
en enfer, alors
ah oui. Oui, oui, c'est ça, mais c'est juste sur, son, sur ta page,
tu vois.
Oui, 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 oui,
c'est génial.
On passe par là.
Retrouver, oui, oui, pour retrouver les gens. Non, il n'y a pas d'escalier. Non, tu peux sauter si tu veux, c'est pas.
Non, non.
T'interdis pas. Mais
en je... parlant de Sylvain Tesson.
C'est ça, oui.
Bon, c'est bien, Tesson. Tu as lu?
Oui, j'ai. Ah oui, j'ai fait. C'est pas si.